Récapitulons. Petite, je voulais devenir Dieu.
J'ai fait une licence de lettres.
Puis, consciente de mon excès d'ambition...
Fallait désobéir pour exister.
J'acceptais de faire martyr quand je serai grande.
Puis j'ai eu 2 enfants en 3 ans.
Je fus donc mutée au poste de rien du tout.
Des expériences de vie ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de romans, de cinéma, de bandes dessinées, d'écriture de soi et même des Ceausescu, même si ça ne s'écrit pas pareil. Avec Sylvie Testu qui signe C'est le métier qui rentre, 5e roman pour un jeu entre fiction et réalité autour de l'expérience d'une comédienne qui réalise son premier film, Benoît Lagane.
Et dans ce nouveau livre, Sylvie Testu remet en scène Sibylle, son double imaginaire, dans un roman cartoon sur la construction d'un film qui va droit dans le mur.
La chronique du vendredi de Thomas Clerc qui met ce soir à son programme la revue Lire avec l'immense Marguerite Duras en couverture. Et puis nous recevrons Catel, auteur d'une biographie graphique, Ainsi soit Benoît de Groult, ou comment après Olympe de Gouges et Kiki de Montparnasse, dessiner le panthéon des grandes figures féministes, Claire Maillot.
Oui, un regard amical sur la vie d'une féministe humaniste influencée par Olympe de Gouges et Virginia Woolf, avec en prime une défense illustrée du roman graphique.
Et pour la programmation musicale, ce soir, ce sera Tie and Love Process, Mathieu Conquet.
Ce sera Afro Space Poetry, Laurent, le nouveau projet de la poétesse sénégalaise Nguima, donc Tie and Love Process. Elle jouera le retour du héros avec ses musiciens en direct et ce sera même filmé.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Xavier Martinet qui rend hommage ce soir au danseur Jean Babilet. Et puis on retrouvera les brèves de Benoît Lagane. On a donc appris aujourd'hui la disparition du danseur et chorégraphe Jean Babilet à 91 ans. On l'écoute tout de suite. Il était interviewé par Laure Adler en 2011.
Je venais d'entrer à l'opéra et j'avais jamais fait de danse. J'avais fait du patin à glace, du ski, plein de choses. Tout le monde dit oh, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, il sait rien faire. Nanana. Alors j'étais humilié. En arrivant dans la loge, au 7e étage, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai posé mes mains sur le rebord de la fenêtre et j'ai monté les pieds au-dessus. Je me suis tenu sur les mains, 20 secondes genre, et je suis descendu. Et tout le monde était complètement stoppé avec des airs de peur. Alors je les ai regardés, ils ne sont plus jamais moqués de moi.
La mort d'un oiseau donc, Jean Babilet s'est éteint ce matin à 91 ans, sans avoir le rôle d'étoile. Il reste vraiment une figure solaire pour la danse de l'après-guerre jusqu'à la danse contemporaine. À la fois une révolution esthétique et une figure éthique, il s'entraînait en maillot de bain et il a connu la gloire en salopette. Et des détails vestimentaires qui disent beaucoup.
Qui en disent long, en effet. C'était en 1946 et c'était une salopette tout à fait banale que Jean Babilet avait choisie expressément pour la création de Jean Cocteau, Le jeune homme et la mort. Un ballet qui était en lui-même à l'époque très novateur par son mélange d'athlétisme et de danse classique et qui a aussitôt valu à Jean Babilet la gloire et le titre plus tard de premier danseur moderne. Ça, c'est Brigitte Lefebvre de l'Opéra de Paris qui le dit. Figure solaire donc et doublée d'un personnage presque légendaire, ancien résistant, cheveux longs, blouson de cuir, motard, loin de tout académisme, donc c'est même un symbole de la danse libre, me disait tout à l'heure l'étoile à l'Opéra de Paris Nicolas Le Riche. Alors il danse depuis quelques années maintenant, le jeune homme et la mort depuis 1999, c'est d'ailleurs un des rares danseurs que Jean Babilet appréciait pour le rôle, et l'année dernière Nicolas Le Riche dansait dans sa salopette originale.
Le jeune homme, en fait, c'était tellement lui, ce jeune homme et la mort. Ça a été fait pour lui, sur lui. D'abord, il avait cette montre bracelet qui était là pour le rappeler. Il avait cette cigarette en scène. Si on le remet dans le contexte, c'était tout à fait surprenant. Cette nature, cet hyper-réalisme qui s'exprimait en scène et avec cette fin, ce jeune homme qui est pendu, c'était vraiment saisissant. C'était pas un choix professionnel pour lui d'expression, la danse, mais c'était un prolongement de sa nature. Lorsqu'on le rencontrait, c'est un mélange de simplicité et en même temps un grand homme de la danse. Lorsqu'il vous parlait de sa moto, il dansait. Lorsqu'il vous parlait de comment il était rentré en contact avec un oiseau sur le bord de sa fenêtre, eh bien, il dansait. En tout cas, il jouait avec la vie, je crois. Il la regardait en souriant et en dansant. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut se souvenir de cet homme tourné vers la vie et la danse étant une expression de vie et pas de mort.
Et la carrière de Jean Babilet marque aussi par sa sa longévité exceptionnelle, plus de 70 ans sur scène partout dans le monde.
Et oui, puisqu'il avait commencé à l'âge de 12 ans, mais une carrière de Paris aux États-Unis en passant par l'Italie et l'Allemagne, avec les plus grands, bien sûr, donc Jean Cocteau, vous l'avez entendu, mais aussi Maurice Béjart ou plus récemment Joseph Nadj. Longévité et résilience même, puisque c'est après une grave fracture qu'il s'est mis à la danse et d'autres blessures tout aussi graves d'ailleurs ont suivi toute sa vie. Lui qui était admiré de Baryshnikov par exemple, même de Nureyev, et qui était le héros de jeunesse du graphiste et publicitaire Jean-Paul Goude.
J'ai passé la tête et j'ai vu ce personnage qui était mi-acrobate athlète et qui volait comme un oiseau. Rien à voir avec tous les danseurs que j'avais pu voir autour de ma maman quand j'étais jeune, qui n'étaient quand même pas très virils. Lui, c'était l'inverse. Donc j'ai appris qu'il était un tombeur, qu'il avait un succès fou. Tout ce dont je me rappelle, c'était les gens qui chuchotaient « c'est pas bilé, waouh !» Un peu comme s'il y avait James Dean dans l'entrée, quoi. C'était ça, c'est pas bilé, c'était vraiment le héros de l'époque. Et en fait, je pense que Babilé est l'auteur de son propre personnage, inconsciemment. Quand il tournait 10 pirouettes, à chaque fois, ça faisait bouger les cheveux. C'était très étonnant. Il se servait de tout ça. Donc, il était mon rôle modèle. Tout ce que je voyais, moi, c'était le résultat. Un danseur totalement atypique qui donne envie aux autres d'être danseurs.
Vous l'aurez compris, donc, au propos de Jean-Paul Goude, le succès, voire le pouvoir de séduction de Jean Babilé dépasse la danse largement. Dans les années 50, par exemple, tout le monde le voulait. Il a fait deux opéras avec Luchino Visconti, il a fait du théâtre avec Arletty ou avec Peter Brook, et au moins quatre films entre les années 60 et 63. C'est donc très rapide. Toujours à l'avant-garde, donc, et jamais snob, m'a-t-on dit. Et par contraste, justement, avec cet éclat, un homme finalement assez secret, même plus enclin aux anecdotes, vous l'avez entendu au début de l'émission, qu'aux épanchements. Il a donné peu d'interviews. Un seul livre seulement a été écrit sur lui par sa sœur en 1995. Certes, on a fait un certain nombre de films de danse, mais un seul portrait, là encore, réalisé par le directeur de la Cinémathèque de la Danse, c'est Patrick Binsart. Il a intitulé ce film « Le mystère, Babilé ».
C'est une époque et c'est aussi un rapport au mystère. C'est devenu donc un homme qui était à la fois un immense danseur, qui savait exactement ce qu'il ne voulait pas. Par exemple, il a décidé qu'il ne resterait pas à l'Opéra de Paris plus de 9 mois. Et au bout de 9 mois, il est parti. Et c'était, je le pense, un enfant terrible, ce titre magnifique de Cocteau, Les enfants terribles. Je pense à Babilé parce que il n'a pas changé en plus de visage jusqu'à pratiquement maintenant. C'est le même visage, c'est très très rare cela. Parce que on peut dire beaucoup de choses sur les acteurs, sur les danseurs. Il y a un moment où l'âge fait qu'on regrette leur jeunesse. Et avec Babilé, on ne la regrettait pas.
Figure multiple et figure presque éternelle, donc Jean Babilé, virtuose de la danse, sorte de James Dean français, trompe la mort bien sûr et figure solaire et de la pénombre. Je précise qu'avant-guerre, Jean Babilé avait renoncé à une carrière qu'on lui avait promise aux États-Unis pour devenir résistant.
Merci Xavier Martinet, on se retrouve lundi pour la suite de ce journal de la culture. Tout de suite, les brèves de Benoît Lagan.
Et pour ouvrir ces brèves aujourd'hui, direction l'Académie des Beaux-Arts qui, dans un communiqué, demande à l'État de trouver des solutions concrètes pour protéger les églises et édifices religieux en association avec les diocèses. Ce communiqué en fait suite aux actes de vandalisme dans la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, dont je m'étais fait l'écho ici.
Les nominations pour les Césars 2014 sont connues.
Et le film le plus souvent cité cette année est une comédie. Les garçons et Guillaume à table, de Guillaume Gallienne, avec ses 10 nominations. Viennent ensuite les films La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, ou encore L'inconnu du lac, d'Alain Guiraudy, 8 nominations. La Vénus à la fourrure, de Roman Polanski, nommée 7 fois. Ou encore une autre comédie, 9 mois ferme, d'Albert Dupontel, qui tentera sa chance dans 6 catégories. À noter que les actrices césarisables cette année seront Fanny Ardant, Bérénice Bejo, Catherine Deneuve, Laurent, Sarah Forestier, Sandrine Kiberlin, Emmanuel Seigné et Léa Seydoux. Notez aussi que Julie Gayet apparaît dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle.
Eh bien. Et pendant ce temps-là, le journalisme est récompensé.
Afin de rendre hommage au talent de portraitiste des journalistes, le fonds de dotation Françoise Giroux a créé en 2013 le prix Françoise Giroux du portrait. Remis hier, le prix a été attribué à Mathieu Palin de Libération.
Bien, on termine cette semaine par la petite histoire du soir.
Eh bien, ce soir, Laurent, une petite histoire d'interdiction de tableaux timbrés relayés par l'Est républicain ou comment même en miniature, certaines œuvres originales ne passent toujours pas. Je vous raconte. Tout commence à l'origine quand, lors d'une réunion de la SPB, la Société philatélique et cartophile de Besançon, une idée de timbre inédit fait son apparition. Les philatélistes du Doubs ont en effet pris l'habitude d'éditer les timbres de leur choix, comme celui consacré aux chaînes de Flaget, le tableau de Courbet au moment de son retour dans le Doubs, ou encore un timbre imaginé à l'occasion de l'inauguration de la maison natale de Victor Hugo à Besançon. Mais voilà que la dernière idée de nos 12 amis du timbre fait polémique.
Quelle est donc l'origine de cette polémique ?
Eh bien, la société philatélique et cartophile de Besançon a demandé à La Poste d'éditer un timbre représentant
l'origine du monde, j'en étais sûr.
Or, La Poste a refusé.
Ah bah tu parles.
Au motif que l'œuvre pouvait heurter les enfants. Du coup, les philatélistes étudient la possibilité de faire un timbre représentant Gustave Courbet peignant l'origine du monde. L'occasion de cacher qui sait le sexe que l'on ne saurait voir. En attendant, deux questions restent en suspens, Laurent. Le musée Courbet d'Ornans, qui accueille le tableau en juin, va-t-il interdire l'exposition afin de ne pas heurter la sensibilité des plus petits ? Et à l'heure du SMS, du mail ou du tweet, quels sont les enfants qui regardent encore de près les timbres des PZT, comme on disait à l'époque, de la téléphilatélie ?
Amis de téléphilatélie, bonjour.
Bonjour. Chère madame, que pensez-vous de l'esthétique du timbre ?
Ben je crois que notre grand désir serait en réalité que les PET s'intéressent aux grands artistes pour leur faire faire des timbres.
Eh bien madame, je vous remercie beaucoup de votre vie.
En fait, vous voyez lécher l'origine du monde ?
C'est ça.
En fait, le problème, c'est que c'est ça.
Mais je n'osais pas en parler.
Oui, mais j'ai vu dans les yeux de Testuc qu'on y a tous pensé.
On y pense tous.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires que l'on voudrait faire sur ces quelques nouvelles ?
En tout cas, ça nous a réjouis.
Exactement. C'est toujours ça de gagner, d'être pris sur la diversité. Qu'a-t-elle, non ? On commence.
Le rendez-vous, si on n'est pas des sauvages.
Plateau La vie d'une autre avec vous, Sylvie Testuc, comédienne, réalisatrice, écrivaine découverte au cinéma dans les années 90, réalisatrice d'un premier film il y a 2 ans, c'était La vie d'une autre, l'adaptation d'un roman de Frédéric de Gelt. Et vous publiez aujourd'hui votre 4e roman, 5e livre, mais 4e roman, C'est le métier qui rentre, aux éditions Fayard. Vous y retrouvez votre double de fiction, Sybille, qui se lance cette fois dans la production de son premier film, un véritable parcours du combattant. Bref, une expérience que vous connaissez vous aussi, puisque vous avez commencé... puisque vous aviez aussi réalisé votre premier film, vous qui avez commencé par une autobiographie qui s'appelait « Il n'y a pas beaucoup d'étoiles ce soir », c'était il y a 10 ans exactement. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce brouillage entre l'univers romanesque, très drôle ici d'ailleurs dans ce roman, et puis votre vie de comédienne et réalisatrice ?
Je crois que, vous savez, on a tous une part un peu... quand on est au conservatoire, par exemple, on nous dit aux acteurs, vous avez un clown. C'est la partie qu'on cache, vous savez, la partie un peu misérable, la partie un peu qu'on essaie de cacher ou qui est moquable. Et ben moi, ce petit clown, je le mets en scène. Je crois que je commence à l'apprivoiser et à bien l'aimer. C'est-à-dire à sortir cette grande naïveté, ce côté que je ne peux pas assumer dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, si vous n'avez pas la réponse à une question, vous passez pour un abruti, en tout cas... Moi, pour une abrutie. En revanche, que ce soit à l'écran ou à l'écrit, c'est une matière à émotion, une matière à discussion, une matière à réflexion, en fait. Et je crois que ça m'intéresse plus de parler des faiblesses, des choses qui ne vont pas ou de mes ressentis négatifs et de m'en moquer, que de parler des, bah, de la force apparente que je pourrais développer dans une vie quotidienne, parce que c'est un rôle, de toute façon, qui ne supporte pas bien les faiblesses.
Mais vous avez commencé par l'autobiographie. Pourquoi ne pas poursuivre dans une veine purement autobiographique sans passer par la fiction ?
Parce que, en fait, je crois que ça ne m'intéresserait pas de passer par la réelle autobiographie. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il n'y en a pratiquement aucune. C'est-à-dire, si je disais que c'était des biographies, des autobiographies, ça ferait de moi une menteuse. En revanche, je tire le trait, je le fantasme à mon avantage ou désavantage, pour en rire ou pour justement en pleurer moi-même, hein, d'ailleurs. Mais il faut que je le décale d'une vérité. Il faut que, voilà, je pense que c'est exutoire, que c'est une récréation de ma part et qui me permet, moi, d'avancer en tout cas.
Qu'a-t-elle, vous qui écrivez des biographies graphiques, je vous ai vu prendre des notes, d'ailleurs oui. Des dessins.
Pas m'empêcher.
Qu'est-ce qui faisait écho dans ce que disait Sylvie Testu à l'instant ?
Bien, c'est intéressant, on parle d'autobiographie, de biographie. Moi, je ne fais pas non plus d'autobiographie précisément, je fais plutôt de la biographie. Là, c'est un peu particulier dans la dernière chose que j'ai faite, une biographique sur Benoît de Groulx, où je me mets moi en scène, mais c'est en fait pour faire parler Benoît. Il fallait une sorte de reporter Tintin qui est devenu Catel. Donc, je me suis mise en scène, mais ce n'était pas pour me raconter, c'était pour pouvoir faire parler mon héroïne, Benoît de Groulx, qui est devenue Benoîtine.
Benoît Lagan.
Sylvie Testu, le livre est très drôle. Vous forcez régulièrement le trait au point même de parler, pour ce roman, de dessin animé. Mm-hmm. C'est-à-dire
bah, c'est-à-dire qu'il y a... Dans le dessin animé, il y a un rythme souvent, vous savez, qu'on pousse comme ça jusqu'à la limite, dans n'importe lequel. Enfin, en tout cas, souvent, moi, j'ai en référence les Tex Avery, où, vous savez, pour donner comme ça un sentiment d'urgence, le loup a les yeux qui lui sortent de la tête, le coyote a la langue qui pend par terre, ça fait un escalier, puis il y a l'autre qui monte. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, ça, c'est le loup. Mais il y a plein de choses comme ça qui sont matières, en fait, qui inspirent, qui font appel à notre part enfantine. Qui nous fait rire. Et surtout, souvent, les dessins animés, on rit du malheur des petits personnages. Et ce qui me fait rire, moi, et ce qui, je pense, fait rire les gens en règle générale, de toute façon, c'est la comédie la plus classique qui existe. C'est-à-dire que de rire de ce qui n'est pas drôle, en fait. Voilà. On rit des gens qui tombent. Après, on se demande si on est un peu généreux, si la personne s'est fait mal. Mais la première des réactions qu'on a, c'est d'éclater de rire. C'est quand même d'une cruauté sans nom.
Quand vous travaillez sur un roman, est-ce que vous écrivez un plan ?
J'en ai un dans la tête, c'est-à-dire que je me refuse à écrire un plan vraiment... Parce qu'en fait, je crois que quand on commence, on a une idée en tête, on a quelque chose, un parcours, mais ça reste assez flou, ça doit le rester assez flou, je crois, et ça se révèle au fur et à mesure. Je pense que si j'avais l'idée vraiment très précise de A à Z et que j'étais pas surprise moi-même par ce que je fournissais, j'arrêterais.
Quel était l'élément déclencheur ici pour ce livre ?
L'élément déclencheur, c'était la tristesse immense qui était la mienne, de me rendre compte que j'avais été suffisamment naïve pour ne pas apprécier réellement le désastre dans lequel j'étais en train d'évoluer. C'est-à-dire, mon film n'allait pas se monter. Et ça, je le savais.
Votre deuxième film ?
Mon deuxième film, depuis longtemps. Et de n'avoir pas l'honnêteté de m'arrêter et de me dire, là, tu cours après une quête qui n'existe plus. Et je m'en suis voulu, en fait. C'est l'échec. En fait, on se dit toujours après, a posteriori, on se dit, oh là là, quand je tourne la tête vers l'arrière, j'aurais dû m'en rendre compte. Eh ben non, quand vous êtes passionné, c'est un peu comme une histoire amoureuse, vous êtes passionné, vous devenez à moitié aveugle, à moitié sourd, et on a beau vous prévenir, on vous dit, cette personne n'est pas pour vous, vous voulez pas savoir.
Benoît Lagan.
Quelle lectrice êtes-vous ? Est-ce que vous lisez plus... Parce que j'ai pu lire que vous lisiez surtout des livres contemporains. C'est vrai ou c'est
oui,
juste
oui.
Une légende ?
Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Là, par exemple, je suis en train de lire le livre de Denis Podalydès, non pas parce que c'est un acteur, mais parce que son livre vient de sortir. Moi, j'aime ce qui est ancré. Je trouve qu'aujourd'hui, la littérature contemporaine parle beaucoup des gens. Et c'est normal, puisqu'on est dans une société qui est quand même assez diverse maintenant. On voit bien que les gens... beaucoup de problèmes, ils ne sont pas de même nature partout. Et moi, j'aime ça. J'aime entrer, j'ai un petit côté peut-être voyeur, j'aime entrer dans l'univers des gens, j'aime connaître leurs problèmes et ce qui les fait rêver. Je ne sais pas, je m'identifie à mes contemporains.
Alors, qu'est-ce qui vous plaît plus particulièrement chez Moravia, puisque j'ai pu entendre dans certains entretiens que vous reveniez sur cette littérature-là ?
Oui, parce qu'en fait, chez Moravia, il y a une sensualité qui naît de rien que du quotidien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'artifice chez Moravia dans sa sensualité et la langueur n'est pas une langueur qui est volontaire, qui aurait à voir avec du dandyisme ou voilà, des choses comme ça. C'est vraiment une langueur qui a trait avec la région dans laquelle il place ses romans, l'âge de ses personnages et vraiment une oisiveté presque proustienne finalement, mais sans tout ce qui est broderie et tout ce qui est très très, comment dire, je trouve pas le mot, mais très fin, enfin voilà.
Le livre, donc le roman, revient sur la conception difficile d'un film. Le personnage se retrouve à écrire un film à l'opposé de celui qu'elle rêvait de faire. Et le livre dresse vraiment un portrait très drôle, mais assez violent du monde de la production, inspiré, vous ne le cachez pas, de votre propre expérience. Vous évoquez un couple de producteurs que vous appelez les Ceausescu, même si ça ne s'écrit pas pareil. Un nom qui rappelle par association celui de vos producteurs à l'époque, les Pétain, parce que ça ne s'écrivait pas pareil. De la même façon, quels souvenirs vous gardez du rapport avec vos producteurs sur l'écriture du premier film ? Parce que ça avait été très important pour vous.
Alors, sur le premier film, alors dont je vais quand même rectifier un peu le tir, hein, c'est-à-dire que je vais quand même me permettre de rectifier le tir. C'est-à-dire que moi, les producteurs que j'ai écrits, que je note là, c'est vraiment c'est trop difficile d'expliquer comment on construit un film. Quand vous construisez un film, la décision n'appartient pas au producteur, la vérité. La décision appartient à un puzzle de personnes. Vous avez affaire à peu près une trentaine de décideurs. C'est trop fastidieux d'expliquer ça à un lectorat, donc moi, je suis obligée de condenser. Voilà. Mais sur mon premier film, en fait, c'était fastidieux de toute façon. C'est ce que dit Polanski. Il dit, un film, c'est toutes les concessions que vous n'avez pas faites. Et c'est vrai que c'est en même temps assez normal et en même temps assez apitoyant pour nous. C'est-à-dire que si c'est un art, le cinéma, c'est un art qui est absolument en regard au pouvoir qu'est l'argent. Et on en a besoin. C'est pas comme écrire un livre. Un livre, vous n'avez qu'un seul interlocuteur qui vous dit OK, oui ou non. Vous pouvez mettre des hélicoptères, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On se fiche du budget. Un film, c'est pas pareil. C'est-à-dire que vous êtes obligé parfois de brider votre imagination parce que de toute façon, matériellement, vous ne pourrez pas le faire. Donc vous êtes sans cesse obligé de tourner autour. Sur mon premier film, par exemple, je sais que à force d'avoir chaque personne qui me donne son avis et même jusqu'au tournage où les acteurs que vous invitez pour jouer vous disent ça je le sens pas comme ci, ça je le sens pas comme ça, ah voilà, alors je vous vois lever les yeux, c'est insupportable, mais en même temps malgré tout, comme vous invitez cette personne à prendre part au film, c'est normal qu'elle ait son mot à dire, mais en même temps c'est crispant parce que vous avez pas rêvé ça comme ça, donc c'est toujours c'est comme un couple en fait, vous voyez, c'est pour ça que je parle tout le temps d'amour et de passion sulfureuse, c'est-à-dire que c'est comme un couple qui se dispute, qui a besoin l'un de l'autre, qui s'aime, mais en même temps qui n'a pas toujours le même intérêt au même moment. Donc évidemment, ça met les gens dans des situations extrêmement fortes, enfin c'est exacerbé. Ça, et tout ça doit aller très très vite, parce qu'un film qui ne se monte pas dans l'année, normalement c'est mauvais signe.
Vous avez fait relire votre roman par des avocats ?
Non. Non.
Très bien.
Alors, au centre du roman, il y a plusieurs chapitres sur le montage des équipes de techniciens par la réalisatrice et les producteurs, avec une pratique assez étrange. Les techniciens sont référencés en fonction du nombre de films qu'ils ont fait.
C'est vrai ?
C'est vrai dans la réalité ?
Non, alors voilà. ça fait partie... Oui et non.
Ça, c'est très, très drôle.
Alors, enfin,
drôle.
Ça fait partie exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire de comment je tire le fil. C'est-à-dire que souvent, vous ne connaissez pas absolument les 80 personnes qui vont s'occuper de votre film. Donc, on vous les présente comment ? En disant le prénom, le nom, et avec le CV, en disant, tu vois, il a fait ça, et plus la liste est longue, et plus ça promet que la personne va être formidable. Mais c'est pas toujours le cas. Et ça, on peut absolument le savoir. Et donc, ça m'a amusé que chacun ait son mot à dire, surtout, à tous les moments, et sur tout le monde, même des gens dont ils n'ont jamais entendu parler, en disant, et ça m'a beaucoup amusé, c'est là que je tire le trait jusqu'à ce que ça devienne du clown, finalement, où les gens disent, non mais attends, tu me dis qu'il a fait 52 films, il en a fait que 47. Donc, soyons exacts.
Dans votre premier film, vous avez eu d'ailleurs le chef opérateur que vous souhaitiez, c'était Thierry
Arbogast,
pas facile à dire, hein. Le directeur de la photographie des films de Mathieu Kassovitz, par exemple Les Rivières Pourpres, c'est lui, mais aussi du Cerf sur le Toit de Jean-Paul Rapneau ou encore du film de Nick Cazavetz, She's So Lovely, vous voyez, moi aussi je dresse des listes. Dans quel film vous aviez plus particulièrement apprécié son travail au point véritablement de faire appel à lui pour votre premier film ?
Dans beaucoup de films, en fait, c'est certains films de Luc Besson aussi qu'il a fait. Après, vous aimez pas le film, mais en tout cas, c'est toujours des lumières qui sont absolument différentes. Dans Chat Noir, Chat Blanc, de Kusturica, la lumière, donc il l'a faite à 80% et puis après il avait dû quitter, mais en tout cas c'est sa lumière, j'avais trouvé absolument splendide. Le film de Mathieu Kassovitz, Babylone AD, qui a une lumière incroyable, et j'avais envie d'aller vers lui. Voilà, je n'espérais pas qu'il me dise oui à ce moment-là parce qu'il avait un emploi du temps extrêmement chargé, et à ce moment-là on m'avait dit écoute, si tu dois l'attendre et qu'il est OK avec ça, alors on l'attendra. Et il était disponible et ça a été une merveille.
Benoît Lagan.
Justement, lors de ce premier film, vous disiez que réaliser un film, vous avez beaucoup appris sur votre propre métier d'actrice. Qu'avez-vous découvert que vous ne saviez pas déjà de votre métier d'actrice ?
C'est cette envie, alors là vous allez rigoler, mais cette envie où vous savez, ça m'est déjà arrivé moi de me sentir comme ça, une émotion qui était forte et qui me sortait des tripes et que j'ai balancé comme ça sur un plateau et de voir un réalisateur me dire... Oui, c'est bien, c'est très émouvant, mais si tu peux éviter de pleurer dans cette scène, ça peut m'arranger, alors que moi, je m'étais ouvert le ventre. Et en fait, ça ne racontait pas l'histoire qu'il avait écrite. Il n'avait pas besoin de ça. Et sur le moment, moi, je suis en tant qu'actrice, je m'étais dit, mais il ne prend pas ce que je lui donne, quoi. Je m'ouvre le ventre, et il ne le prend pas. Eh bien, c'est quand vous êtes vous, subitement, le réalisateur, et que vous êtes aux commandes d'une histoire, et que vous avez la même chose, quelqu'un qui est en train de s'ouvrir les tripes, alors que vous demandez juste d'ouvrir et de fermer une porte. C'est très compliqué, vous dites, oh là là, comment je vais faire pour que cette personne ne soit pas aussi vexée que ce que j'ai été moi, le jour où on m'a fait la réflexion.
Sylvie Tessier, est-ce que vous avez des rituels d'écriture ? Est-ce que vous écrivez plutôt le matin, l'après-midi ? Est-ce que vous avez un lieu privilégié ? Écrire couché, assise ?
Oui, j'ai un lieu privilégié, c'est mon bureau qui est minuscule. Hein. Là, c'est, pour le coup, c'est exa, c'est le bon métrage, c'est-à-dire c'est vraiment un KGB. J'écris mieux le matin, bizarrement, très tôt. C'est-à-dire au moment où je me réveille, j'aime bien avaler ce qui me passe sous la main comme petit déjeuner, allumer une cigarette et me retrouver dans mon bureau qui est tout en désordre Et j'adore ça. Et je ferme la porte et plus personne n'a le droit d'entrer.
Qu'a-t-elle, vous ? Vous dessinez à quel moment ? Plutôt toute la journée ou là encore des rituels d'écriture ?
Le rituel pour une dessinatrice de bande dessinée, c'est tout le temps. Parce que c'est très long, c'est très fastidieux de faire une bande dessinée. C'est juste long de dessiner, de faire des cases une après une, surtout sur des romans graphiques qui font 350 pages. Du coup, moi, en tout cas, je suis assez organisée et assez régulière. Je me lève à l'heure fixe. De toute façon, j'ai des enfants, donc il faut aller à l'école. Et puis, un petit café et au travail jusqu'au soir. Je m'arrête moins tard qu'avant, mais tout de même, je ne m'arrête jamais. Le week-end, je continue. Et puis, quand je vais à une émission de radio, je continue aussi.
Oui, j'ai vu que vous dessinez tout à l'heure. Vitesse-tu, notamment, c'est ça ?
Oui, enfin, je prends des petites notes de tout ce qui se passe.
C'est celui-ci, mon meilleur profil.
On change de place, on recommence.
C'est pas le bon.
C'est une bonne réplique d'actrice, non ?
Imagine. Alors, on parle de romans, mais donc il y a le cinéma. Et avant le cinéma, il y a aussi le théâtre. Et vous êtes passé notamment par le conservatoire. Vous y êtes rentré, je crois, sous la direction de Marcel Bozonnet, mm-hmm. au moment où une nouvelle génération de professeurs arrive. Quelle rencontre déterminante y faites-vous, Sylvie Testu ?
C'est la plus grande des rencontres que j'y fais, c'est celle avec Catherine Yégel. Qui est une, à mon avis une grande actrice de théâtre, enfin pas combien d'ailleurs la vie générale, et mais qui a en fait comme professeur, en fait elle est vraiment dans la transmission. Elle a jamais été dans la position d'un professeur qui parlait à des élèves. Elle était dans la transmission de futurs acteurs ou même d'acteurs jeunes plutôt. Et ça c'était assez bien parce que quand vous êtes apprenti acteur, apprenti comédien, vous êtes impressionnable et impressionné par les gens qui font ce métier. Et donc, vous êtes influençable et poreux. Et elle légitimait les choses. Elle vous disait, il y a quelque chose chez toi, cette faiblesse. Où... Tout était matière à travail. Et c'était une merveille.
Je me demandais justement, au vu de votre parcours et de votre expérience d'actrice, si parmi les metteurs en scène et les réalisateurs que vous avez rencontrés, il y a certains qui pouvaient passer comme modèle dans la façon vous-même que vous avez aujourd'hui de travailler avec vos acteurs.
Oui, il y avait... Alors moi, quand j'ai fait Les blessures assassines, Jean-Pierre Denis, donc, qui ne réalise un film que quand vraiment il en a envie et que quand vraiment c'est très nécessaire, il avait une façon de nous diriger... alors qu'on était assez jeunes actrices toutes les deux, très simple. C'est-à-dire qu'il nous faisait oublier le résultat. On était à ce moment-là en train de jouer cette scène-là et c'est vrai qu'il avait une façon de nous communiquer le fait que notre personnage ne se projetait pas dans l'avenir, il ne savait pas ce qui allait lui arriver et que ce n'était pas la peine que nous, on déroule absolument tout dans notre tête, qu'on n'était pas des scripts, qu'on devait être dans l'instant, là, présent, maintenant, avec les sentiments dont on avait besoin là, maintenant, tout de suite. Et que c'était lui qui faisait son affaire de raconter l'histoire. Et ça, c'était génial.
Et ça, c'est ce que vous faites aussi aujourd'hui avec vos acteurs ?
C'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, avec beaucoup moins d'expérience que lui, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire les décharger de la continuité de la narration. Et d'être vraiment dans l'instant présent et de vraiment répondre à des sentiments.
Benoît Lagan ?
Oui, à propos de direction d'acteur, on recevait Pierre Ninet ici pour le film sur Yves Saint-Laurent. Et lui, il expliquait la façon de diriger de Jalil Lespère, comédien et réalisateur, qui dirige avec beaucoup de répétitions, au plus près de ses acteurs, jouant même les scènes avec eux. Lors de votre première réalisation, vous disiez que vous ne vouliez pas que les comédiens se sentent dirigés par une actrice.
Oui, parce que...
Fais-tu.
Oui, en fait, alors, par exemple, moi, je ne suis pas une grande fan de la répétition. Je préfère chorégraphier, c'est-à-dire dans l'espace, plutôt qu'une répétition. Mais même moi, en tant qu'actrice, je ressens ça. C'est-à-dire que je crois beaucoup au fait que les gens s'accordent dans leur rythme. Et ce qui fait un beau dialogue, souvent, sont des rythmes qui ne sont pas les mêmes. Une rencontre de deux personnes vraiment différentes, deux entités fortes. J'aime ça. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à essayer de choper tout de suite le premier instinct. Et moi, je n'avais pas envie qu'ils sentent une actrice parce que, en fait, moi, je pense que le réalisateur doit être celui qui pense et l'acteur doit être organique. Donc c'est en ce sens-là que je dis, je ne voulais pas être une actrice parce que j'ai l'impression, moi, quand je suis actrice, que je suis vraiment un instrument qui est là pour vibrer et pas là pour penser, justement. Alors que là, en tant que réalisatrice, j'ai mis toutes mes neurones au service de mes acteurs et de mes actrices.
Sylvie Testu, ce titre, c'est le métier qui rentre, c'est une phrase que vous avez entendue dans votre parcours ?
Ah oui, c'est une phrase qu'on entend partout, même avant d'être actrice. C'est une phrase qui, à la base, m'agace beaucoup. Et donc, dont je me moque, ouais. Que je trouve assez grossière, je dois le dire, et qu'on dit comme ça en disant, quelque part, je vais en dire une autre qui est assez grossière, qu'est-ce que ça peut foutre ? Il y a un côté comme ça. qui m'agace beaucoup et qui clôt la discussion en disant « Bon, bah voilà, il y a une raison à tout. Donc ne pleure pas, ne sois pas triste, tu vois. C'est le métier qui rentre, donc ça veut dire que la fois d'après, tu ne te feras pas avoir, ce qui est complètement idiot comme réflexion. » Et qui m'a toujours agacée. Et voilà, maintenant, elle est devant, elle est
en couverture.
La couverture de mon roman.
Le rendez-vous, la chronique.
Salut Testu et Catel, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique du vendredi. Thomas Clair avec le magazine Lire et Duras en couverture.
Oui, Lire, qui est un verbe du troisième groupe, mais aussi un mensuel régulier qui vaut 6,50 €, à peu près le prix d'un petit poche. Donc son titre est explicite comme un infinitif, moins consacré à la littérature qu'à son actualité. Même si on trouve une chronique intéressante, page 104, sur les livres oubliés ou méconnus. Malheureusement, il s'agit ici encore d'un roman sur la guerre. Il est à noter d'ailleurs que Lire a élu comme meilleur livre de l'année 2013 le roman de Pierre Lemaitre. Quel goût du risque. Cela devrait mettre du baume au cœur à tous ceux qui sont actuellement en train de mettre la dernière main à la pâte au potentiel Goncourt 2014, qui devrait récompenser Centenaire oblige de la Grande Guerre, soit L'ultime poilu, soit Les tranchées magnifiques, où tes seins sont des obus. Ça, c'est du Apollinaire.
Ça, je ne pense pas que ça marchera.
On verra bien. Bref, Lire est, on l'aura compris, un magazine bon teint et androcentré. Or, il ne faut pas confondre Lemaitre et Marguerite. Et c'est précisément MD qui est à l'honneur ce mois-ci. MD, non pas Michel Drucker, qui est, on l'apprend, en 39e position seulement sur la liste des ventes. Il doit être un peu déçu. Mais quelle idée aussi d'écrire des livres. Remarquez que dans son cas, ça s'appelle de la lumière à l'oubli, et ça s'appelle donc une prophétie autoréalisatrice.
Un énoncé performatif.
Ouais, exactement. Mais MD, c'est bien sûr l'immense Marguerite Duras qui fait la couverture en photo, une photo non datée que je suppute de la côte normande de 84. Arrêtons de tourner autour du pot, j'aime bien lire, mais lire me pose un problème. Son objet est censé me concerner, or je n'ai jamais envie de lire. Sans doute parce que l'intérêt que j'éprouve pour l'actualité littéraire est inversement proportionnel à mon penchant pour la littérature elle-même. Mais ne faisons pas trop facilement de l'opposition écrivain-journaliste. Marguerite Duras nous a appris que cette opposition est illusoire. Non, je crois que la réponse peut être déduite du titre lui-même. Lire est un magazine sans point de vue et sans complément d'objet direct. Tout le problème est là, à mon avis. Lire, ce n'est pas tout lire. Et ici, on ne fait pas de différence entre un bouquin de cuisine édité chez le marsan de choupe Tachène, de soupe, et Les alcools de Guillaume Apollinaire, suscité. Ceux-ci n'ont d'ailleurs droit qu'à 3 étoiles, tandis que Modernist Cuisine at Home se voit gratifié d'un 4 étoiles pour un bouquin à 100 € dont la version originale en valait 400. Tel est le problème de Lire. Son estomac est à la fois immense et peu exigeant. C'est un journal du milieu qui est à la littérature ce que Première est au cinéma et Cheval Magazine au monde équestre. Il défend par conséquent une littérature du milieu. Comme dit Dominique Fernandez à la page 25, je cite « L'avant-garde n'est pas comprise par le peuple, juste par quelques snobs. » Refrain que je ne connaissais pas. Dans ces conditions, comment traiter Marguerite Duras, qui n'est pas précisément un écrivain du milieu? A toujours été maltraité par ces gens-là dans toute sa carrière. Je rappelle un seul exemple, l'attribution du Goncourt 1954, non pas au barrage contre le Pacifique, mais à l'insolite agriculteur Paul Colin qui devait se retirer plus tard dans une ferme du Sud-Ouest. Bref, Lire est obligé d'avoir des têtes d'affiche comme Marguerite Duras, mais au fond n'aime pas vraiment son œuvre et ça transpire dans tout le magazine. C'est assez intéressant, elle est vue exclusivement sous l'angle de l'anecdote inoffensive Marguerite au fourneau avec des photos de tarte au citron, bienvenue en Durassie avec des photos sur un jardin ou un témoignage captivant puisqu'il est d'Hervé Villard. Bref, Duras est ravalé au rang d'icône un peu grotesque qui, je cite, à la pâtisserie Charlotte Corday à Trouville, de son gâteau préféré, ce Gouin frais. Enfin, j'ai renversé la syntaxe
pour faire Duras. Voilà. Je me disais, c'est très étrange, cette grammaire.
Sa dimension littéraire donc est parfaitement gommée par le staff essentiellement masculin de Lire. Au lieu de glorifier la mairie de Trouville-sur-Mer, qui fait chaque année un hommage à Marguerite Duras, on ferait mieux de rappeler les attaques que Duras elle-même faisait contre Anne Dornano, la maire de Deauville, qui avait salopé le paysage en 77, ce qui lui valut d'ailleurs d'être même censuré par Libération dans l'été 80. Bref, il ne faut pas donner à Dieu ce qui appartient à François Bunel.
Elle a l'espoir du tombé, elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile.
Pourriez-vous nous expliquer, Catel, ce que l'on vient d'entendre? Vous qui êtes féministe, on vient d'entendre ce jingle, et c'est quelqu'un de votre famille, c'est ça?
Oui, 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 et en effet, oui. Assez lointain, mais...
Assez lointain, mais quand même de votre famille. Alors, plateau féministe avec vous, Catel, auteur de bande dessinée, auteure de bande dessinée, avec une spécialité, notamment, c'est les biographies graphiques consacrées aux grandes figures du féminisme. Il y a eu Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, que vous aviez co-signé d'ailleurs avec Jean-Marie Bocquet. Et aujourd'hui, vous publiez seul Ainsi soit Benoît Groult, chez Grasset. Pourquoi vous êtes débarrassé de Jean-Marie Bocquet? Le sujet ne l'intéressait pas?
Bon, ça tombe bien, je ne connais pas Jean-Marie Bocquet. En revanche, je connais un José-Louis Bocquet, qui est mon mari en plus.
Ben oui, c'est ça, c'est José-Louis Bocquet. C'est moi qui ai mal marqué.
Bon, je m'en suis pas débarrassée parce qu'en fait, il est devenu
un des
personnages de la bande dessinée. C'est celui qui m'accompagne, qui conduit la voiture, qui pose le micro, qui filme, etc.
Mais pourquoi cette fois-ci n'avoir pas co-signé à deux ce sujet-là précisément?
Parce que je ne suis pas obligée d'être forcément reliée à lui pour chaque livre.
Glorieux, très bien. Ça.
Je peux aussi me débrouiller par moi-même. Et,
vous l'avez fait
et,
par la
preuve.
Déjà, avant.
Mais je vous rassure, le prochain livre sera avec lui de nouveau.
Ah, voilà, on l'invitera.
Vous venez de recevoir le prix Artemisia 2014, qui distingue les auteurs heureux de BD. Quel regard vous portez sur cette initiative féministe dans un milieu qu'on qualifie parfois de machiste?
Alors, machiste, je ne sais pas, mais en tout cas extrêmement masculin. Alors, peut-être, effectivement, la vitrine peut paraître assez machiste. Et ce prix Artemisia est une sorte de contre-pouvoir créé par des femmes, dont Chantal Montelier, grande féministe engagée dans la bande dessinée, qui, avec Jeanne Puchol, s'est associée il y a 7 ans pour monter ce prix, pour mettre en valeur des femmes qui ne sont malheureusement pas bien mises en valeur en général dans la bande dessinée. Il suffit de regarder la vitrine d'Angoulême, qui fête son 41e festival, 41 présidents, une présidente. Voilà, ça, les chiffres parlent par eux-mêmes, je crois.
Et deux lauréates, je crois, de Claire Bretéché.
Mais Claire Bretéché a eu le prix des 10 ans d'Angoulême, mais pas la présidence. Ah. C'est Florence Sestac uniquement qui l'a eu.
Alors, votre sujet cette fois, c'est donc Benoît Groult, écrivaine, féministe. On va retracer la vie de 1920 à aujourd'hui. Vous la rencontrez en 2008 pour une commande du journal Libération. En fait, vous aviez pensé à deux personnes. Vous aviez pensé à Benoît Groult, mais aussi à Claire Bretéché, justement. Qu'est-ce qu'elle a représenté pour vous en tant qu'auteur de BD?
Auteur de BD, Benoît
oui.
Groult.
Non, Bretéché.
Bretéché, oui, ce sont les deux femmes qui m'ont fondée, en fait. Artistiquement, intellectuellement, adolescente, je lisais Bretéché, ça traînait chez mes parents, dans les magazines, les albums. Et puis Benoît Groult, bien sûr, aussi, que j'ai eu dans les mains à 15 ans, avec son fameux Ainsi soit-elle, où j'ai découvert la condition féminine que je découvrais vraiment avec stupéfaction, que ce soit en France, les inégalités, ou ailleurs, où c'était bien pire, où je découvrais ce qu'était l'excision, enfin, tout ça m'a profondément choquée et ça s'est inscrit voilà, en moi profondément. Il fallait un jour que ça sorte d'une manière ou d'une autre. Et Bretéché, évidemment, elle m'a construit artistiquement puisque je me suis dit que c'est peut-être un métier possible pour une femme de faire Bretéché. Et voilà, quand j'ai pensé faire après un personnage vivant en bande dessinée, une biographique comme ça en direct, j'ai pensé à elle. Mais d'un autre côté, je me disais qu'elle était tout à fait capable de le faire elle-même puisqu'elle dessinait. J'allais forcément le faire moins bien qu'elle. Et voilà pourquoi je me suis tournée aisément vers Benoît, bien que Benoît ne lisait pas du tout de bande dessinée.
Et
je n'avais aucune raison de sympathiser avec elle sur ce plan.
Dès la couverture, donc on voit marquer le titre, Ainsi soit Benoît Groult. Et puis on voit Benoît Groult disant « Je n'aime pas la bande dessinée ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie de sa culture? Parce qu'il y a même un moment...
Avec
où elle
un
parle
air
de...
très détendu.
Avec d'ailleurs. Un air complètement détendu. Et puis même à un moment donné dans le roman graphique, elle parle de Claire Bretéché. Elle vous demande, mais c'est de la BD, Claire Bretéché?
Oui, voilà, c'est tout en filigrane. C'est le problème en dehors de sa vie et du combat féministe. C'est qu'est-ce que la bande dessinée? Quelle est cette culture? À qui ça parle? De quand ça date? Etc. Donc c'est un petit peu l'histoire de la bande dessinée aussi. En tout cas, toutes les questions que ça pose. Puisque heureusement pour moi finalement, mais il y a eu une sorte de malentendu au départ quand j'ai proposé à Benoît de faire une bande dessinée ensemble, un livre ensemble. Elle a tout de suite dit oui, alors qu'elle n'avait jamais co-signé à part avec sa sœur le journal à quatre mains. Mais là, bon, elle avait dit oui, elle m'aimait bien. On avait déjà eu l'expérience de Libération. Elle avait vu mes dessins qu'elle trouvait bien faits. Et puis c'est au bout d'un certain temps d'interviews, de rencontres, qu'on a signé le contrat, on déjeune ensemble, et là, elle se rend compte que c'est une bande dessinée que je fais. Et là, catastrophe, elle me dit « Mais j'ai horreur de ça, c'est un truc pour les illettrés, tu vas réduire ma pensée dans des bulles, c'est une catastrophe, c'est impossible. » Et moi, qui pensais qu'elle avait vaincu tous les préjugés de la vie en général, je découvre que le plus énorme est devant moi et que ça va être impossible. Et donc, ça commence sur une fâcherie où j'ai envie d'arrêter l'affaire. Et bon, on se réconcilie, j'en parle moins dans le livre après, je raconte l'épisode quand même où il y a cet énorme malentendu. Mais finalement, on se réconcilie parce qu'elle me présente curieusement ses excuses et a envie de démarrer une expérience ensemble. Et puis moi, sur des œufs, j'essaie de lui expliquer que c'est un art. Si, Benoît, c'est un art. Et j'essaie de lui prouver tout au long du livre que oui, ça, c'est quelque chose qu'elle va découvrir. Et elle s'y prête vraiment bien.
C'est pour ça que le livre fonctionne véritablement comme une défense et illustration du roman graphique. Est-ce que vous êtes lectrice de bande dessinée?
Oui, je voudrais parler moi de Bretéché, justement. Moi aussi, j'ai beaucoup lu. Et je trouve que ce qui était assez génial, c'est qu'elle parlait des femmes dans aussi leurs défauts, en mettant des forces, en disant, mais oui, moi aussi, bien sûr qu'on parle comme ça. Bien sûr que parfois, on appelle à la paresse, à la fainéantise, et alors. Et je trouve que c'était assez libérateur. C'est en ce sens-là où c'est une vraie féministe, c'est que on n'entend presque pas de revendications. C'est l'inverse qu'elle dit. Elle dit, il faut nous aimer parce qu'aussi on parle mal, parce qu'on se tient mal, parce qu'on peut être aussi bête que vous imaginez qu'on soit, et pourtant on est digne d'amour malgré tout. Et ça, c'était quand même assez... C'est quand même
une libération, vraiment.
Oui, assez
nouveau.
Et le
sens de l'humour aussi qui nous était permis tout à coup.
Et du coup, un jour, on voit sa photo, moi je me souviens de ça, et c'est une femme sublime. Elle a un côté blondie en plus. On se dit, mais c'est complètement fou, c'est-à-dire qu'elle a tout.
Mais vous l'imaginiez de quelle façon?
on se dit, quelqu'un qui met tout... Ben, moi j'étais petite en plus au moment où je lisais ça. Je ne sais pas ce que j'imaginais, mais j'imaginais surtout pas une si belle femme, quoi.
Mais elle faisait des personnages très caricaturaux avec des gros nez. Elle est mal foutue et
elle se tenait très mal.
Donc
aussi.
Évidemment, par transposition, on imaginait qu'elle était comme ses personnages.
Voilà, c'est
et
ça.
Elle était exactement le contraire.
Et absolument.
Et justement, parlant du dessin, dans la préface, Benoît de Gouges revient sur la manière dont vous l'avez dessiné, notamment de cette silhouette penchée, de ce dos rond sur le plan du dessin. Quels ont été les premiers éléments qui vous ont frappé chez elle?
Mais d'abord, elle est très belle. Aujourd'hui même, elle a 94 ans. Bon anniversaire, Benoît, si tu m'entends.
Ah, et bon anniversaire.
C'est super, bon anniversaire.
Aujourd'hui même.
Une émission d'actualité.
Oui. Et je l'ai trouvée très belle, enfin incroyablement. C'était il y a 7 ans qu'on s'est rencontrés finalement. Et alors très vive, très drôle. J'étais stupéfaite par cela. Finalement, je lui donnais pas d'âge. Et puis très vite, on est rentré dans une intimité assez particulière que je ne soupçonnais pas avant, puisqu'elle a accepté cette expérience, moi aussi, de vivre avec elle longtemps, beaucoup, souvent, qu'elle me raconte toute sa vie, parce qu'elle a quand même connu une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote, où elles faisaient des avortements à l'aiguille à tricoter. Et tout ça, elle pensait que c'était normal. Elle a découvert petit à petit les droits pour les femmes. Et après, elle a combattu pour cela. Donc, elle me racontait sa vie et j'étais fascinée par son physique, par sa vivacité, par sa modernité, à part sur la bande dessinée. Mais voilà, j'ai essayé de transposer, justement, un petit peu comme on parlait de Bretéché, l'image que j'avais d'elle. Pas vraiment la réalité, mais le personnage qui pouvait se dégager d'elle et qui faisait d'elle une héroïne de bande dessinée.
Alors, ce qui apparaît aussi dans le roman graphique, c'est que son féminisme est parfois en complet décalage avec les nouvelles féministes. Par exemple, je pense à la naïveté dont elle fait preuve, et c'est normal quand elle parle des fémines, puisqu'elle n'est pas du tout de la même génération, ou son regard sur l'affaire DSK, qui là est un peu plus problématique. Je la cite, « Je vais me fâcher avec les féministes, mais le viol, c'est pas la mort. » Est-ce que vous avez eu des sujets d'opposition, qu'a-t-elle, avec ses positions?
Oui, bien sûr, hein, comme pour la bande dessinée. Et heureusement, parce que c'est ce qui a fait qu'on a eu une relation vraie. Alors moi, je ne me mets pas en scène dans la bande dessinée en donnant mon avis, qui a peu d'importance.
Jamais, justement. Et non, oui, mais si, ça avait une importance. On s'est demandé pourquoi vous restiez complètement en retrait, plutôt dans le rôle du journaliste qui pose les questions et non pas de l'interlocutrice, véritablement.
Mais sinon, j'aurais développé des fâcheries inutiles. Je pensais justement que c'était un sujet à polémique, donc c'était important de le mettre. Et en plus, elle acceptait, tout comme la couverture. C'est ma façon, de toute façon, de le montrer et de le dire. Allons-y, rentrons dans le débat. Et d'ailleurs, je suis dans beaucoup d'émissions où on me demande l'affaire DSK, pour ou contre. Et voilà. Mais je trouvais qu'elle avait quand même un point de vue qui se défendait et qui était personnel. Et elle n'est jamais dans le rail ou dans la bienséance, dans des conventions. Elle a une pensée très personnelle et finalement qui peut être justifiée.
Claire Maillot.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui a déplu au final à la lecture du roman graphique?
Ben, je crois tout.
C'est la bonne réponse, je crois.
Oh, ouais, je suis assez merveilleux.
En même temps, on a eu le prix Artemisia, elle était là. Et voilà, un des jurys lui a fait une sortie formidable en disant qu'elle aurait dû normalement être dans le panthéon des femmes littéraires entre George Sand et Simone de Beauvoir. Et finalement, elle sera entre Tintin et Milou. Et elle a beaucoup ri et elle est ravie. Et elle s'appelle maintenant Benoîtine, elle en rit, elle parle. Et on est très amis.
Alors, elle pensait avoir tout dit dans ses romans, déjà dans sa littérature. Qu'est-ce que vous avez, vous, découvert au fil des entretiens, en fait?
Bien, moi, en fait, j'avais au départ pensé faire ça en trois morceaux. Il y a trois maisons. Donc, je m'étais dit, j'avais monté mon petit projet arbitrairement et théoriquement, en se disant, voilà, trois entretiens, trois maisons sur sa jeunesse, sur ses amours et sur la politique. Et puis, dès le troisième rendez-vous, c'était tellement incroyable tout ce qu'on vivait en off, en dehors, que je me suis dit que ce qui était surtout intéressant, c'était de raconter ces petits moments de vie intercalés avec ces grands moments, ces grandes rencontres quand même que j'ai réalisées pour raconter l'ensemble de sa vie, mais qu'elle avait de toute façon déjà raconté dans ses romans de façon très exhaustive. Donc j'ai fait une sorte de synthèse de sa vie, mais j'ai plus développé finalement les à côté qui sont très intéressants, justement comme la réaction sur l'affaire DSK, mais ça peut être aussi une lettre d'un gigolo qui lui écrit ou...
Un gigolo de 23 ans qui lui propose ses services.
Ses services, voilà qu'elle
peu
me
cher.
Sa réaction lors d'une exposition de peinture, des promenades ensemble. Enfin, voilà, un tas de choses du quotidien, finalement, des petites choses du quotidien qui la racontent de façon encore plus personnelle aujourd'hui, peut-être que des écrits plus généraux sur l'histoire du féminisme.
Alors justement, vous faisiez référence à l'épisode de l'escort boy de 23 ans qui lui propose ses services avec photo à l'appui, mais il y a aussi une scène de sexe, mais très pudique, hein, avec celui qui va devenir son mari. Et chaque fois, le traitement, justement, est très pudique, que ce soit pour le gigolo ou que ce soit pour cette scène de sexe. Est-ce que c'est une difficulté pour vous de dessiner frontalement le corps ? Est-ce que c'est réservé aux hommes ?
Non, non, c'est pas du tout une question de pudeur, enfin de pudeur dans le sens de gêne sexuelle. C'est plutôt par rapport au personnage, enfin à mon héroïne qui vit et qui regarde, et donc c'est juste une question voilà, de respect sur la vie privée. Et comme elle lisait au fur et à mesure les choses, j'avais pas envie de la mettre dans des situations embarrassantes, il fallait s'arrêter à temps. C'est toute la difficulté de travailler sur un personnage qui existe, qui vit. Alors que finalement, les situations où elle est plus, qui sont plus gênantes, c'est l'affaire d'Esca, où c'est quand elle n'aime pas la bande dessinée, quand elle sort des aberrations, quand elle se fâche. Et là, elle a tout accepté, sans problème.
Le rendez-vous, 10h. La session.
Eh bien, comme chaque jour, nous allons nous quitter en musique. Mathieu Conquet, la session ce soir ?
Ce soir, c'est la chanteuse Nima, alias Thaï, qui s'installe derrière vous. Laurent, vous vous souvenez peut-être, elle accompagnait le batteur et guitariste Dr. L hein, lors de son passage ici. Ce soir, c'est son projet, Thaï and the Love Process, donc mené par cette poétesse sénégalaise qui compose, chante aussi bien en anglais qu'en wolof, ce qui donne au résultat un phrasé entre le spoken word et le tassou, qui est une forme de joute oratoire du Sénégal. Elle publie Life is not a waiting game, premier court album. C'est Thomas Kett à la basse, Mamoun à la batterie, Stéphane à la guitare, Cédric au saxophone, baryton. Le retour du héros, Heroes Return, et la session est filmée. C'est en direct. À vous.
Am I getting mad anyway? Am I getting older and wise? By the way, time is passing by which way? All my tears and fears. Then I pray the Almighty Lord to bring me back all my heroes. Bring them back in me. They all stand proud, they all sound loud. Bring them back in me. They keep showing me the way when I close my eyes and pray. Bring them back in me. They were so strong and still bring me light as peace and justice what they all defined. Bring them back in me. Make their memory mine. I wanna feel like the heroes of love. I wanna shine like the spirit above. I like be able to change the world. No blood spread, no weapon, just with the word. I know the power is in our hand, no doubt. I wanna be like the heroes I love. I wanna shine like the spirit above. I wanna be no blood spread, no weapon. I like the devil. No blood spread, no weapon. Maybe. I wanna be like the heroes I love. I wanna shine like the spirit above. I like the able to change the world. No blood spread, no weapon, just the word. I know the power. Chaplin, Charlie, bring me back my Madeleine and John, bring me back Malcolm X, yo, bring me back Lady and Stewart, bring me back Leopold Senghor, bring them all back in me again. Bring me back Martin Luther King, bring me back Mahatma Gandhi, bring me back Chaplin, Charlie, bring me back my Madeleine and John, bring me back Malcolm X, yo, bring me back Lady and Stewart, bring me back.
at Leopold Senghor. Bring them all back to me. The world, no best friend, no rubbish, just the word. No, the power is in our hand, no doubt. I know I can't resist, I don't finish. I wanna be the hero you will believe in someday. When I believe in, I wanna be like the heroes I love. I wanna shine like a spirit above. I like be able to change the world. No blood, bread, no weapon, just with the word. I know the power is in our hand, no doubt. I know I can't break the silence with the shout. I wanna be the hero you will believe in someday. Someday when I believe in me, hell I shine.
Merci, Tie and the Love Process en direct sur France Culture. Life is not a waiting game. Il est disponible sur toutes les plateformes et téléchargement légal. Ils seront en concert le 14 février à La Pêche à Montreuil, le 8 mars à Fontenay et le 12 mars, et ça c'est le tambourin qui vient de tomber, au Centre Barbara Goutte d'Or à Paris.
Bon anniversaire Benoît, si tu m'entends.
C'est super, bon anniversaire.
Aujourd'hui même.
Une émission d'actualité.
Oui.
En tout cas, ça nous a réjouis.
Merci à nos invités. Sylvie Testu, C'est le métier qui rentre, c'est aux éditions Fayard. Qu'a-t-elle ainsi soit Benoît Groult est paru aux éditions Grasset. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Que désirez-vous? Elle n'arriva pas à répondre malgré un effort visible. Il la laissa en paix.
Demain, il faudra attendre lundi pour une émission spéciale Duras avec Fanny Ardant et la chef monteuse Dominique Auvray, le prince Miaou. Ce sera pour la session musicale, Mathieu, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Très bien.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumar.
Une émission en face de vous, Laurent, pas vrai.
Mathieu Conquet, Benoît Lagan, Claire Maillot, Xavier Martina, Essatou Ndoye et Elodie Royer. Et la chronique de Thomas Claire aujourd'hui. À la prise de son, Alexandre Dang et Emmanuel Morse-Duncan. À la réalisation, Thomas Beau.